Non, moi je rentrerai pas, non, je rentrerai pas dedans. Ça, je mettrai plus les pieds dans cette tôle, là. Hein. Vous rentrez ici, vous allez voir quel bordel que c'est. On est dégueulasse jusqu'à là, on est toutes noires, hein, faut le voir, vous. Bien sûr, les bonnes femmes qui sont dans les bureaux, elles s'en foutent, là. Enfin, y'en a avec le patron, de tout ce qu'il y a à faire, de toute façon, alors.
Chômeur.
Auteur. Compositeur.
Yeah. Eh bien bonjour, bonjour les amis de la nouvelle année 2011. Laissez-moi vous chanter comment je vois cette année à venir. Voici venue l'année sans problème. Fini l'RSA, passe-moi donc la RISA. Enfin bon, bref, je me demande bien pourquoi on se creuse autant la tête à CAC 34 pour réfléchir à ce qu'est la résistance, à ce que ça pourrait être. En fait, vivre comme on le fait, avec 450 euros par mois, c'est déjà une sacrée résistance. Au minima sociaux, comme ils disent. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, mais en société, ça vous situe tout de suite. Les gens ont même l'impression que ça vous définit complètement. Ils en oublient d'être polis, d'être curieux, d'être charmants avec vous. Ils ne voient que votre petit compte en banque et le risque aussi que vous soyez contagieux. Peu importe si vous avez un décérébré en face de vous ou une gourde de première, du moment qu'il ou elle touche plus que vous, on dirait que vous n'existez plus, qu'ils valent beaucoup, beaucoup plus que vous. J'en ai souffert un peu, je n'en souffre plus. Je crois que c'est ça aussi, résister, c'est ne plus être impressionné par le bruit des euros et arriver à se dire « Non, ma vie n'est pas un minimum social. Ma vie de chômeuse, c'est résister aux raccourcis bêtes et méchants. » C'est comprendre le monde, c'est tenter d'apprendre tous les jours et de continuer à partager les trois fois rien qu'on a et continuer à réinventer une manière d'être digne et beau. C'est tout le mal que je nous souhaite pour 2011. Ce n'est ni L'Oréal ni Chanel qui font la beauté. Ce qui est sexy pour moi et pour nous en 2010 comme en 2011, ce qui est sexy, c'est l'intelligence et le rire. Et ça, nous les chômeurs, on en déborde parfois. Alors bonne année à vous tous pour ce second volet de la résistance sur CAC 34 et pour fêter ça dignement autour de moi, un effectif réduit à ma droite sans connotation politique, Nicolas. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nadia.
Qu'est-ce que tu te souhaites pour 2011?
Ouh là là, plein de bonheur et plein de CAC 34.
Plein de CAC 34. Et à ma gauche, un peu plus orienté politiquement, nous avons Pierre.
Oui, bonjour Nadia. Moi, je me souhaite, pour cette année, je me souhaite de continuer d'avoir du travail et que ma vie donc ait un sens avec le travail et les euros donc.
Et les euros. Mouais, en attendant cette année à venir, ça nous rappelle plutôt la traversée de Paris où un gabin, Tony Truant, braillait dans un Paris collabo pétri de marchés noirs et de petites traîtrises nationales. Souvenez-vous, disais-je, il braillait « Janvier, je veux 15 000 francs !» C'était pas tellement pour l'agent qu'il braillait et qu'il gueulait, c'était pour déranger les petites affaires sordides d'un traficoteur embourgeoisé. Eh bien nous, en janvier 2011, on veut 15 000 francs aussi, et surtout que ça change. Et d'ailleurs, mes collaborateurs qui ne collaborent pas trop, j'espère, ont choisi un petit extrait de film qu'on va écouter tout de suite.
30 ans, on a travaillé dans cette usine. Un four comme ça brûle 24 heures sur 24, tu peux pas l'arrêter. Alors on faisait les trois pauses à feu continu. 21 jours de travail d'affilée, sans interruption. T'as plus de week-end, plus de jours fériés, plus rien. Tu te lèves à 4 heures du matin pour aller bosser. Ou tu pars de chez toi à 9 heures du soir, le week-end. Quand tes copains arrivent à la maison pour souper avec ta femme, bah à la fin, tes copains ne viennent plus. Et ta femme, elle se barre. Tu finis par plus voir que les gars de ton équipe, ceux qui ont le même horaire que toi. Ça devient ta nouvelle famille. On passait la nouvelle ensemble à l'atelier. Le jour où tu perds ça, tu perds tout. On a tous laissé notre santé. Jean-Pierre, ces gens, il y en a qui ont laissé leur peau. Et pourtant, cette usine, on l'aimait. Peut-être que c'est seulement parce que c'est elle qui nous faisait bouffer. Peut-être qu'on s'est cru plus fort qu'elle, plus fort que les autres, plus solidaire. On nous a fait croire qu'on était une sorte d'aristocratie et on l'a cru. Peut-être qu'on s'est fait entuber jusqu'à la moelle. Mais ça, c'était notre vie. Ma vie. Maintenant, il a vendu un morceau. Ça fait 5 générations qu'on se fait exploiter et maintenant qu'on arrivait tout juste à gagner un peu plus que le minimum pour vivre, c'est encore trop. Ils partent ailleurs, plus loin. Exploiter des gens encore plus pauvres, encore plus fragiles.
Je suis désolé, Romère. Je suis désolé.
Je m'en fous que tu sois désolé. Je t'ai pas amené ici pour que tu sois désolé. Regarde devant toi tout ce que tu vois. C'est un tas de fric. C'est ce que ça vaut, une tonne d'acier. Là, il y en a des milliers. Chaque semaine, il y a un train chargé de ferraille qui part d'ici. Les types payent en liquide. Et l'argent reste là, toute la nuit. Parce que les convoyeurs de fond n'arrivent que le lendemain. S'ils ont le droit de vendre ma vie en morceaux, je considère que cet argent est autant à moi qu'à eux. Alors si ça te dit, je suis prêt à partager.
Chômeur.
Auteur. Compositeur. Yeah!
Alors voilà, nous revoilà aujourd'hui au sommaire de janvier 2011. Je vous le disais, on veut que ça résiste et on sera toujours du côté de la raison du plus faible, comme dans cet extrait de film que Nicolas a choisi. Je m'interroge, pourquoi as-tu choisi cet extrait de film ?
Alors tout d'abord, j'ai choisi parce que c'est un film que j'apprécie beaucoup, en fait, justement la raison du plus faible de Lucas Bellevaux. Et surtout, je trouve qu'il montre bien ce passage de... Parce que chômeur, on l'est pas tout... Enfin, c'est pas une condition à vie, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est des gens qui ont travaillé, qui sont devenus chômeurs. Et surtout, je pense que cet extrait montre bien la différence entre ce côté de la société qui voudrait qu'on consomme, qui nous pousse à consommer avec grand renfort de publicité, où tout le monde doit acheter, y compris des choses dont on n'a pas forcément besoin, et puis notre condition réelle qui ne nous permet pas d'acheter tout ça. Alors, comment est-ce qu'on compose entre les deux ? Est-ce que c'est l'être humain qu'on broie en se meurtrissant et en pleurant sur notre sort
Oui, en fait, tu décris la naissance de la frustration sociale, quoi.
Voilà.
En fait, c'est ça.
Et quelle solution on lui donne ? Alors là, ils vont donner comme solution, ce sera un hold-up. Mais je trouve que c'est intéressant parce que ça parle aussi de certaines de nos pratiques en tant que chômeurs. Bah, il nous arrive de contourner la loi, de prendre des trucs dont on a besoin dans les magasins sans avoir forcément l'argent pour les payer.
La société de consommation, c'est quand même la société du hold-up, parce que ça peut pas exister dans une autre... Le hold-up, le casse, le cambriolage, ça peut pas exister dans une autre société.
Alors, bon, je vais me faire l'avocat du diable, et puis en plus vous me faites un peu frémir autour de moi, parce qu'en préparant cette émission, justement, il y a eu des cris d'Orfraie, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous nous sortez un extrait de hold-up, est-ce que c'est une incitation au vol, à la transgression, et est-ce que c'est ça, résister ? Est-ce que c'est ça, résister ? Personnellement, je vous entends très bien, j'entends aussi des tas d'expériences de gens qui sont à la limite des niveaux, comment appeler ça, qui sont au seuil de pauvreté, quoi, et qui ont du mal à exister, et qui donc des fois chourent un peu dans les magasins. Moi, j'y arrive pas, personnellement. Mais je fais pas de jugement de morale sur cette question-là, mais on s'est posé la question, et ça hurlait d'ailleurs pendant la préparation de l'émission, pas moi, hein, vous me connaissez, moi je suis modérée et tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a que ça effraie, et est-ce que c'est ça, la résistance ? Parce que ce qui était mis en avant par, rappelez-vous, une des membres de l'équipe, c'est de dire quand on résiste, c'est pour des acquis collectifs. Et quand on chour, c'est un peu des acquis individuels.
Mais dans ce cas-là, on peut dire que la résistance, c'est un hold-up qui a réussi. Mais quand même, le hold-up, c'est le cambriolage. C'est quand même un acte individuel. C'est quelqu'un qui veut sauver sa peau. Donc on peut pas, au départ, lui, celui-là, il peut pas se justifier, dire derrière moi, il y a un tas de gens qui me ressemblent. Et puis d'ailleurs, il le fait même pas pour les autres, il le fait pour lui-même. Donc un hold-up, c'est pas de la résistance. Si on le prend comme ça.
Bah, je veux noter quelque chose, c'est que le hold-up, c'est pas un cambriolage. Un cambriolage, la plupart, ça peut aussi être contre un particulier. Et cette violence, elle est complètement différente si elle est tournée vers un particulier ou si elle est tournée vers une institution, une banque ou quelque chose comme ça. Il y a des assurances, il y a plein de choses qui prennent en charge les dommages qui pourraient être causés. Donc pour moi, ça n'a pas la même portée, je veux dire.
Toi, tu dis que c'est une attaque contre le château.
C'est une attaque. Après... Est-ce qu'elle réussit ? Est-ce qu'elle réussit pas ? Est-ce qu'elle vaut le coup ? Est-ce qu'elle vaut pas le coup ? Ça, c'est effectivement des questions que ça entraîne. Hein. Ça, il est hors de question de dire que c'est assurance tout risque, allez-y, vous allez gagner.
Bon, alors, c'est limite aujourd'hui, c'est un peu tendancieux. Je vous rappelle que nous ne faisons pas d'incitation au vol. Et ça, moi, ce qui m'a plu dans cet extrait, c'est quand même aussi, il y a comme une sortie de la résignation de cet ouvrier à un moment donné. Enfin, ils regardent et là, ils sont tous les deux à contempler. Il fait un état des lieux, un bilan de ce qu'ils ont mis dans cette cette entreprise, leur vie, leurs années et puis leur situation actuelle en fait. Et cette espèce de gros coffre-fort qui est en fait la richesse que eux ont produite sans doute quoi, à travers leur travail. Et l'autre lui dit je suis désolée. Et l'autre lui dit j'en ai rien à foutre que tu sois désolée. Et moi je trouve ça assez, pour moi c'est peut-être un premier pas vers la sortie de la résignation et de l'acceptation de son sort. Donc c'est en ça que je trouvais assez illustratif de comment on résiste déjà, prendre conscience qu'on n'est pas obligé de subir. Mais regardez pas comme ça, coupez-moi la parole. Je suis pas parole d'évangile.
C'est vrai que c'est super beau. Et surtout, d'ailleurs, de là où certains, enfin la personne qui n'était pas d'accord et qui n'est pas venue d'ailleurs, a pas compris, c'est qu'on peut faire un hold-up. L'appropriation, elle peut être pour son compte perso, mais après, c'est pas forcé que ça dure, c'est-à-dire qu'on peut le partager aussi. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe dans le film.
Mmh. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On s'écoute. Les absents n'ont pas toujours tort. On a normalement, on devait avoir Bruno avec nous en studio. Nicolas qui nous a lâché aussi le deuxième. Alors, cette fois, c'est pas le grand patronat ni le capital, c'est la gastro. Donc, on va s'écouter la petite minute éthylique de Bruno autour de cette question-là. Il m'en voudra.
Bonjour tout le monde. C'est la deuxième émission sur la résistance. La première émission, je vous ai fait une chronique par rapport à ma résistance à moi. Là, je me suis dit, tant qu'à résister, je veux savoir ce qui se passe ailleurs. Donc, j'étais voir dans les médias, sur Internet, un peu partout, et j'ai fait une petite synthèse. Les résistances actuelles semblent défensives, suscitées par des sursauts d'indignation. Comment ne pas se laisser submerger par un sentiment d'impuissance, par le piège de l'attente? La surenchère du gouvernement est permanente. Ces mesures traduisent une radicalisation du néolibéralisme. Les formes de résistance doivent-elles se radicaliser au risque de renouer avec la violence? C'est une question. Face au néolibéralisme qui se limite à la seule recherche des bénéfices, être conscient de ce qui se passe ne change pas les choses. Il faut construire des pratiques d'éducation alternatives. Quelles expériences, outils, connaissances peuvent nous permettre de développer une résistance créatrice? En l'absence d'un modèle alternatif et sans promesse d'un avenir meilleur, la réponse se trouve peut-être dans des expérimentations concrètes qui fleurissent dans le monde. La création de quelque chose de nouveau prendra le temps qu'il faudra. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas le temps. Aujourd'hui, les gens cherchent pratiquement comment faire autrement. En tout cas, la solidarité est plus joyeuse que l'égoïsme.
Chômeur,
auteur, compositeur. Yeah!
Voilà, nous voilà, après le petit papier de Bruno, que ça vous inspire quelque chose?
Oui, moi je voulais revenir sur cette histoire de violence. J'ai trouvé un très beau texte de Jean Genet qui parle de violence et brutalité. Donc je vais vous lire un tout petit extrait en fait. Donc il dit « Si nous réfléchissons à n'importe quel phénomène vital, selon même sa plus étroite signification qui est biologique, nous comprenons que violence et vie sont à peu près synonymes. Le grain de blé qui germe et fend la terre gelée, le bec du poussin qui brise la coquille de l'œuf, la fécondation de la femme, la naissance d'un enfant relèvent d'accusations de violence. Et personne ne met en cause l'enfant, la femme, le poussin, le bourgeon, le grain de blé. »
Oui, il est en train de dire en fait que dès qu'il y a l'éclosion de quelque chose dans la vie, il y a une violence, c'est ça? Bah, moi je suis pas trop d'accord, parce que le gars qui a perdu sa femme tout à l'heure dans le film... Lui, c'est pas une éclosion de vie, c'est quelque chose qui se ferme, c'est quelque chose qui s'éteint. Et puis, la violence, on dirait qu'elle ressort, qu'elle se passe au niveau du sens de la vie. Par exemple, il y a une perte du sens de la vie. Tandis que ce dont parle Jean Genet, c'est le contraire, c'est le sens.
Mais ce dont tu parles, c'est plus s'il perd sa femme, c'est plus à cause de la brutalité du système.
Ouais, bah, c'est qu'il y a plus de sens. Le système, il est brutal parce qu'il n'y a plus de sens.
Il n'y a plus de sens partout. D'ailleurs, moi, je suis un peu paumée dans mon conducteur. Je pense qu'on va s'écouter un peu de musique et se détendre un peu. There's joy over there. There's joy over there. There's joy over there. There's joy on the other side. Just voir pour se poser la question pourquoi ça ne pète pas plus. Je vous le disais dans la première émission consacrée à la résistance, Joseph Boudot, notre modèle à nous, fondateur de la Maison des Chômeurs, qui est revenu parmi nous donc pour cette émission, on l'écoute.
Est-ce que le plaisir c'est un moteur de la mobilisation ?
Il me semble qu'il est plus à l'arrivée qu'au départ. parce que c'est vrai que dans les manifs récentes, là, il y avait, je pense qu'il y avait une véritable bonne ambiance, une véritable de joie, qu'il y avait plaisir de voir des slogans qui étaient astucieux, assez marrants, et puis le plaisir de rencontrer des copains qu'on n'avait pas vus longtemps. Et voilà, et puis l'ambiance de chant, etc., même si je trouve que souvent les décibels étaient trop forts, bon, c'est un point de vue. Donc je vois la joie plus comme un résultat qu'un objectif d'une certaine manière.
Je voulais vous demander, en fait, pour rebondir là-dessus, j'arrive pas à imaginer que vous ayez lutté autant de temps toute votre vie et que ce soit le fil rouge, sans qu'il y ait une dimension de transformation humaine et qu'on puisse trouver du plaisir dans la solidarité ou dans le plaisir d'être ensemble, de comprendre, de découvrir, d'apprendre ensemble, en fait.
Oui, je pense qu'il y a une satisfaction personnelle profonde. On peut l'appeler la joie d'une certaine manière, mais c'est peut-être ça peut être la paix aussi, ça peut être le sentiment de cohérence entre ce qu'on a comme objectif et puis les résultats.
Est-ce qu'on lutte en traînant les pieds ? Est-ce que c'est un truc qu'on se dit mince, maintenant, enfin, encore que j'avais lutté pour obtenir ça et ça et ça ?
je crois qu'il y a des alternances. Il y a des moments où on est gonflé, on est plein d'enthousiasme, et puis c'est quelquefois des moments collectifs, on est emballé, mais l'expérience montre que l'action militante, c'est pas un fleuve long et tranquille, hein, et qu'il y a des échecs, il y a des fatigues, il y a des divisions, on ne lutte pas exactement pour les mêmes choses. Du reste, même à l'intérieur du mouvement des chômeurs, on voit qu'il y a des sensibilités différentes. Donc il y a des moments quelquefois de découragement, hein, mais justement il s'agit de dépasser ces moments, et on remarque au fond que c'est la vie nous aide, parce que on n'est pas toujours heureusement découragé en même temps, et que les camarades sont plus optimistes, sont plus entraînants et peuvent nous relancer. Personnellement, dans ma action militante, je remets pas du tout en cause ce que j'ai fait, et ce sera à refaire, je le ferai, mais c'est quand on prend un peu de recul et qu'on regarde un peu de loin ce qui s'est passé. Mais vu de près, quelquefois, c'est pas forcément aussi joué. Mais peut-être ce que vous voulez me faire dire, je sais pas, c'est que on peut pas être vraiment militant dans une ambiance de tension permanente. Et on peut être assez critique contre, comme on dit maintenant, les militants professionnels, et c'est peut-être une interrogation à poser aux vieux militants que nous sommes, à la génération des gens qui ont 40 ans et au-dessus. Quelquefois, ils donnent l'impression d'être militants tous azimuts, de n'avoir aucune vie personnelle, et je pense que les jeunes générations ont besoin d'un peu plus de... Je ne sais pas, de sérénité, d'équilibre d'une certaine manière, et puis de prendre le temps de vivre, tout simplement.
Chose que vous n'avez pas faite quand vous méditiez ?
Il y a eu des périodes où je n'ai pas fait assez, je pense. Mais quand même, je ne crois pas. Moi, j'ai toujours le souci, notamment des temps de réflexion et même de vie spirituelle, d'une certaine manière, pour ne pas être noyé dans l'immédiat.
Bonsoir, Pôle emploi à votre service.
Quand j'étais petit, je voulais être chômeur. Maintenant, je suis grand, je suis chômeur. J'hésitais entre ouvrier chômeur et patron chômeur, et puis finalement, j'ai pris ouvrier. Eh ben, je suis content parce qu'il y a plus de choix. On est peinard, vous voyez, pour choisir, on a... Ah oui, il y a du choix, hein, c'est bien.
Chômeur.
Auteur. Compositeur.
Yeah!
Eh bien, nous revoilà. Je vous disais, enfin, je me suis un peu plantée sur la transition. Hein. On était allé titiller Joseph Boudot, notre ancêtre, comme disait Nicole le mois dernier, sur le plaisir et le militantisme. Hein. Donc, vous avez entendu sa réponse mitigée. Alors, il y a aussi du plaisir quand on cherche à comprendre, quand on ne banalise pas l'inexcusable, quand on résiste aux réponses toutes faites qui vous disent « cherche pas, c'est comme ça et pas autrement ». Et figurez-vous que Nicolas, notre Zorro du CAC 34, a dégainé son épée. Qu'as-tu encore fait, Nicolas ?
Alors, bah, comme tout bon chômeur, je cherche du travail et donc je regarde les offres qui paraissent sur Montpellier et sa région et aussi, enfin, entre autres, le site de Pôle emploi. Et je suis tombé sur une offre. Alors, une offre très spéciale, rémunérée à la moitié du SMIC. Et donc, j'ai cherché à comprendre et j'ai appelé l'employeur potentiel pour voir ce qu'il avait à dire.
Allô ?
Allô, oui, bonjour madame, Nicolas Thomas à l'appareil. Je vous appelle au sujet de l'annonce pour le recensement.
Oui.
J'ai fait la télécandidature, mais avant de vous envoyer mon CV, je voulais vous poser quelques petites questions.
Ouais, allez-y.
Pour le salaire, en fait.
Comment... C'est une rémunération à la feuille.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, alors, dans le cadre du recensement, vous avez à collecter des renseignements. Bon, il y a deux demi-journées de formation. Bon, ces demi-journées de formation, vous êtes payé. Hein. Vous avez une indemnité qui vous sera versée. Un repérage des lieux à faire pendant une semaine à peu près. Vous relevez toutes les adresses. Il y a une semaine de travail sur le terrain qui n'est pas indemnisé. Okay. Ensuite, commence véritablement la collecte. Donc, vous déposez au domicile des personnes les formulaires qui sont nécessaires au recensement, par foyer, et ensuite, vous allez les récupérer. Et la rémunération, elle est calculée sur le nombre de feuilles déposées et récupérées à chaque adresse. Donc, la feuille de logement, donc pour chaque logement, il y a une feuille de logement, et ensuite, une feuille par habitant dans le logement, d'accord ? Et la feuille de logement, alors je suis en train de rechercher mon papier, là, que je sache combien c'est payé.
Parce que sur moi, sur l'annonce, en fait, c'est pas, je savais pas, c'est même pas marqué euro, mais c'est marqué 0,97 le bulletin, plus ouais, 0,64 la feuille logement.
Oui, c'est ça.
Donc,
0,64 euros, c'est du net, hein, c'est pas du brut. Hein. Donc 0,64 euros par feuille de logement, c'est ça hein, ce qui est marqué.
Oui, c'est ce qui est marqué.
Et 0,97 euros par bulletin individuel. Donc, c'est un bulletin individuel par personne recensée.
D'accord. Et si parce que moi, je vais passer, mais si les gens sont pas là ou s'ils remplissent pas les feuilles, comment ça se passe ?
Ah, il faut que ça soit fait. Il faut que ça soit rempli. Il faut arriver à discuter avec les personnes et à leur faire comprendre que c'est important, etc. Donc tout ça, on vous l'explique hein, à l'occasion de deux demi-journées de formation.
D'accord, donc il faut passer un petit moment à discuter avec les gens.
Suivant les personnes, y en a qui ont l'habitude, hein, qui savent ce que c'est que le recensement et qui ne posent pas de problème, qui prennent les feuilles, vous passez, vous les récupérez à une date précise, ils les rentrent, c'est rempli, il n'y a pas de souci. Puis parfois, on tombe sur des gens où effectivement, on va passer peut-être un petit peu plus de temps. Il va falloir bien leur expliquer, arriver à trouver les bons mots pour les amener à participer à cette enquête de recensement.
Éventuellement, je les remplirai avec eux.
Ah oui, vous pouvez très bien les remplir avec eux le jour où vous passez, si effectivement ils ont le temps. Bon, ça peut se faire.
Alors la charge là de travail, je vois qui est prévue, c'est marqué 523 bulletins et 182 feuilles logement, c'est ça ?
C'est à titre indicatif, hein, parce que bon, on a des secteurs qui sont très lourds, qui sont plus lourds que d'autres. Hein, en fonction des populations, on a des types d'habitats, on a des logements, des districts, on appelle ça un district, hein, le secteur. On a des districts qui sont avec une plus forte population que d'autres. Donc il faut compter sur les secteurs les plus lourds, c'est effectivement environ 500 habitants pour 180 logements. Quoi.
Alors parce que là je calcule. Et ça ce serait sur les deux mois donc.
Ouais.
Et parce que
c'est pas un plein temps non plus. Hein.
Oui, ben je vois que vous mettez 20 heures environ, en fait.
Ouais. Enfin, moi, j'ai mis 20 heures parce que, à titre personnel, je l'ai déjà fait. Et je l'ai fait en plus d'un travail à plein temps.
Et ça vous prenait combien de temps, hein, environ ?
Ah, ben, tous les soirs. j'y allais tous les soirs, 2-3 heures par soirée, quoi.
D'accord, et le week-end aussi.
Et le samedi, voilà. Parce que le dimanche, en général, on va pas embêter les personnes. Hein. Donc j'y allais le samedi, ou des fois, j'y allais le midi, parce qu'il y a des gens qu'on a du mal à trouver le soir, mais par contre, qui sont là le midi. Donc voilà, quoi, mais...
Parce que là je fais un rapide calcul et si je calcule 523 bulletins là fois 0,97
ouais.
Et 182 feuilles logement à 64 centimes pièce, ouais. Ça fait un tout petit peu plus que 600 euros pour 2 mois.
Oui, mais c'est pas du plein temps.
Oui, d'accord, mais c'est quand même 20 heures par semaine.
Moi j'avais calculé ça, mais bon.
Parce que là c'est la moitié du SMIC quasiment.
Ah bah moi, c'est pas moi qui fixe les tarifs, hein. C'est fixé par l'État.
D'accord.
Donc y a des gens qui travaillent vite, il y a des gens qui travaillent pas vite, il y a des gens qui se baladent, il y a des gens qui mettent 3 heures à expliquer à une personne pourquoi on recense et à quoi ça sert, et puis il y en a d'autres qui en 10 minutes vont arriver à persuader la personne, quoi.
Mais vous pouvez pas faire un effort, enfin je veux dire rehausser
un peu.
Ah bah
ça, c'est pas moi qui décide, c'est la mairie, hein. C'est pas moi qui décide, hein. Moi, ils savent ce que ça représente comme travail.
D'accord. Ce serait plutôt madame qui s'occuperait de ça?
Du tout.
Du tout, non, c'est carrément... C'est les politiques, vous voulez dire?
C'est la directrice générale des services.
Et il faut une voiture pour faire ce travail?
Il y a des secteurs où, effectivement, on n'a pas, il n'y a pas de transport en commun. Hein. Il y a un bus qui traverse la commune, mais c'est tout. Et il y a des secteurs qui sont sur des parties boisées où les parcelles sont assez grandes. Donc ça fait faire beaucoup de marche à pied. Donc quand on a une voiture, on peut se rapprocher quand même d'un secteur, se déplacer, parce qu'on a quand même des formulaires à transporter, etc. Donc,
c'est assez lourd. Enfin, je pensais pas que c'était aussi lourd comme travail, parce que... Et puis voilà, la rémunération, là, 600 euros pour 2 mois, c'est en plus avoir une voiture ou... Enfin, c'est...
Bon, maintenant, bon, ça convient ou ça convient pas à la personne. Hein. Personne n'est obligé de s'engager dans le recensement de la population. Hein.
Et vous n'avez pas peur que ce soit mal fait? Parce que, enfin, je veux dire, moi, à la limite, je finis par les remplir moi-même, les fiches. Au moins, je gagne du temps.
Vous ne pouvez pas les remplir vous-même, hein. Les renseignements, vous ne les avez pas.
Bah ouais, mais enfin, je sais pas, c'est vérifié après.
Bah bien sûr, enfin moi en tout cas, je sais qui habite sur la commune, je vais vous dire que bon, donc si on me ramène des feuilles et que je vois que c'est pas, ça correspond pas au type d'habitat, que ça correspond pas aux gens qui sont dedans, c'est sûr que l'agent recenseur il saute, quoi.
Bon, mais écoutez, enfin finalement je crois que je vais pas donner suite parce que c'est pas assez bien payé pour moi en fait.
D'accord. Ah. Je vous comprends, hein. Moi, bon, je suis assez d'accord avec vous. J'estime qu'au moins, il faudrait... Moi, je pense qu'il faut rémunérer au moins le... Comment dire?
Bah, le SMIC, moi, je demandais...
Ah, bon. Enfin bon, on peut pas... Le problème, c'est qu'on peut pas se baser
sur... Auteur. Compositeur. Yeah.
Nicolas, c'est quoi ces exigences? Et tu demandes le SMIC en plus. Alors
Eh oui, la main-d'œuvre est pas comme en Inde, au Vietnam ou je ne sais où. Ils veulent le SMIC, tu te rends compte? Et donc, enfin, tout ça, c'est appel. Moi, je vous avais vu, hein, je suis resté très calme parce que quand même, elle est. C'est hard ce qu'elle me dit. Elle me dit que le SMIC, c'est en gros, je devrais même pas y penser. Et que... Donc ça, c'est la mairie de Clapiers. Et donc c'est une offre qui est illégale puisqu'elle est en dessous du SMIC. Donc il y a d'une part l'employeur qui est coupable, mais il y a aussi le Pôle emploi qui diffuse cette offre. Et donc j'ai cherché à comprendre aussi qu'est-ce qui se passait et comment Pôle emploi gérait ses offres en fait.
Bonsoir. Pôle emploi à votre service.
Bonjour.
Allô, oui, bonjour madame. Je voudrais un renseignement à propos d'une offre que vous avez publiée sur votre site internet.
Oui, donc c'est une offre d'agent recenseur, c'est ça?
Oui, exactement, oui. Alors, ce que je voulais savoir, c'est que je constate que c'est une offre de 20 heures hebdomadaires et donc un salaire sur 2 mois de 600 euros. Et donc c'est carrément inférieur au SMIC, c'est la moitié du SMIC en fait.
Alors là, qu'est-ce que j'ai marqué? Il y a marqué 0,97 le bulletin, puis 0,64 la feuille logement.
D'accord, par bulletin ça fait ça, mais dans la description type de contrat, c'est marqué qu'il y a 523 bulletins et 182 fiches logement par agent, pour 2 mois.
Alors je vois que c'est le Pôle emploi de Castelnau qui a saisi cette offre, donc j'ai un peu de mal à voir plus que ça. Travailler en soirée le samedi, c'est 123 bulletins plus 182 feuilles par agent. Et donc en fait, vous seriez payé au bulletin et à la feuille. Je vais regarder, je l'imprime pour voir ce que ça me donne. Non, ça me donne pareil. Moi, j'ai 97 centimes plus 64. Et vous me dites que ça fait 600 euros.
Oui, regardez, vous faites 500 bulletins fois 1 euro à peu près. Ça fait 500 et l'autre, ça fait 100 euros de complément.
Alors, peut-être que vous pourriez contacter l'employeur qui est ce qui
remet. Mais je les ai appelés justement.
Oui.
Mais moi, ça me dérange que vous publiez des offres qui sont à la moitié du SMIC quand même.
Alors, je pense que c'est le barème qui est en vigueur dans l'administration pour les agents recenseurs. Effectivement, c'est curieux. Mais là, je ne peux pas vous en dire plus, à moins de pouvoir vous mettre en relation avec le Pôle emploi de Castelnau qui a pris l'offre pour en savoir un peu plus.
Je peux le joindre à quel numéro?
Alors, le Pôle emploi? Vous ne pouvez pas les joindre par téléphone. Il y a deux solutions, soit vous y rendre, si ce n'est pas trop loin de chez vous.
Bah si, c'est loin.
C'est loin?
Oui.
Soit par mail, alors je vais vous dire...
C'est pas possible par téléphone.
Non, par téléphone, on ne peut pas joindre une agence en particulier. C'est pour ça que la plateforme téléphonique a été mise en place. On ne peut pas joindre les conseillers. Mais par mail, vous pouvez leur demander des précisions. Ils vous répondront. Hein.
Mm-hmm.
Ils ont 48 heures pour vous répondre.
Et vous trouvez ça normal qu'il y ait des offres en dessous du SMIC?
Je connais pas les barèmes pour le recensement. C'est peut-être un cas particulier.
Mais vous devez pas vérifier quand même que les...
Ah, oui, absolument. Donc c'est que ça doit être la législation en vigueur. Hein.
La législation, c'est quand même le SMIC.
Pas pour tout. Hein. Si vous prenez une assistante maternelle, par exemple, c'est pas 8,86 € de l'heure non plus. Hein.
Oui, mais là, c'est quand même la moitié.
Ouais. Je sais pas. Franchement, je regardais peut-être sur le site du gouvernement si vous trouvez des barèmes pour les agents recenseurs aussi.
Ah oui, forcément, eux, ils ne s'occupent pas de la loi, ils sont au-dessus des lois. Là.
Non, mais c'est peut-être une législation particulière. Hein. On est payé à la feuille, au bulletin, la mairie vous a dit quoi?
Ben, ils m'ont dit que eux ils voulaient pas payer plus, qu'ils savaient que c'était en dessous du SMIC, mais que on avait qu'à travailler plus vite en fait.
Ah, pour en faire plus.
Voilà.
Ouais.
Et puis marcher vite entre deux maisons pour.
Bon, c'est vrai que c'est une offre particulière, mais je suis désolée, j'ai pas plus d'informations que ça. Je regarde. Qu'est-ce qu'elle a noté, la conseillère? Non, il n'y a rien de plus sur l'établissement.
D'accord.
Désolée.
Comment elle s'appelle, la conseillère?
Alors, je regarde si j'ai son nom. J'ai qu'un code, moi. Donc éventuellement, je peux vous donner son mail aussi.
D'accord.
C'est plus simple de l'appeler, de la joindre à elle. Alors, je vais regarder.
D'accord. Et elle n'est pas joignable par téléphone non plus?
Non plus. Non, on ne peut pas joindre un conseiller par téléphone.
Bon, ben, tant pis. Mais je vous remercie quand même, madame.
Avec plaisir, monsieur. Au revoir.
Au revoir.
Chômeur.
Auteur. Compositeur.
Yeah!
Voilà, c'est édifiant, la suite, quoi.
Oui, ben, j'ai poursuivi. Et en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est que pour l'administration, en gros, s'il y a quelque chose qui est comme ça, c'est que ça doit être normal. On se pose des questions. On cherche des justifications, mais on ne cherche même pas à savoir ce qui est la vérité. Regardez un exemple clair, en fait. Enfin,
mensonge sur mensonge. La dame de Clapiers me dit oui, c'est la directrice générale des services qui décide. La dame de Pôle emploi me dit oui, ça doit être une loi, etc., spéciale. Et moi, quand je cherche, je trouve que c'est une délibération du conseil municipal de Clapiers à l'unanimité qui décide de payer la moitié du SMIC les agents recenseurs. Donc, encore une fois, c'est le bal des...
Oui, on voit ce que tu veux dire.
C'est un cercle.
C'est un cercle où tout le monde se défausse, personne n'assume des responsabilités. Et donc, j'ai écrit à la dame de Pôle emploi qui a diffusé cette offre, qui a refusé de me répondre. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, elle ne m'a pas répondu.
Donc elle a répondu
J'ai contacté son chef, en fait, voire son surchef. Et elle a fini par me répondre un truc bidon. Où elle me dit qu'elle a suspendu l'offre dès qu'elle l'a su, sauf que entre-temps la mairie de Clapiers me répond « Oui, vous n'êtes pas sélectionné, nous avons trouvé grâce à Pôle emploi quelqu'un. »
D'accord, donc il n'y a pas plus d'explications.
Non.
Comme ça.
Voilà. Bah, l'explication, c'est que tout le monde se fout de notre...
Voilà. Tout a disparu.
Ouais, mais en fait c'est ça, c'est qu'ils ont un budget prévu pour le recensement, et ils le répartissent, et tant pis si ça contrevient... Enfin, au minimum régi par la législation qui est le SMIC, quoi. Donc voilà. Et donc, mais ils espèrent en fait que personne va appeler, que personne va trifouiller là-dedans, que c'est normal qu'on accepte tout ça, quoi. Voilà. Moi, la première, quand je t'ai entendu appeler, je me suis dit, mais comment ça se fait quand que la nana de Pôle emploi ou de la commune t'envoie pas blackbouler en me disant, mais monsieur, si cette offre vous intéresse pas, passez votre chemin. Et je trouve qu'ils sont extrêmement patients, ils répondent jusqu'au bout. Et bon, voilà.
Moi aussi, je suis patient et gentil.
Oui, t'es patient aussi. Alors voilà, ça c'était bon, ça parlait de soi-même. Je pense qu'on n'a pas besoin de commenter davantage ces histoires d'offres d'emploi édifiantes qu'on peut trouver sur le site de Pôle emploi. Je ne dis pas que c'est un site à rester au chômage, mais presque. Alors, on a aujourd'hui, Pierre, tu nous as. Je crois au fond que tu as compris qui s'organise et où sont les vrais résistants, les vrais communistes.
Oui.
Au fond, on a un scoop. Le saviez-vous, au fond, les vrais communistes, ce sont les riches, n'est-ce pas, Pierre ?
Oui, mais j'avais le choix entre le complot et la théorie du complot, tous pourris et l'indifférence. Non, c'est juste qu'on ne comprend pas comment ça marche. Ben, en fait j'ai opté pour le communisme. Alors, pourquoi le communisme, hein ? Pourquoi pas le MEDEF ou la CFDT ou le siècle ? Ben en fait, parce que il me semble quand même que la meilleure manière de résister, c'est d'être communiste. Bon, alors être communiste, bon, facile, hein, t'as qu'à prendre ta carte, t'as qu'à lutter contre le capitalisme. Travailleur, travailleuse. Oui, c'est vrai, bon. D'abord, je dois dire que j'ai eu la chance d'avoir eu des parents ouvriers qui écoutaient marcher à la télé et qui allaient à la fête de l'UMA tous les ans, donc je ne suis pas objectif dans cette affaire. Hein. J'ai vraiment, moi-même, à 10 ans, je vendais l'Humanité dimanche, tous les dimanches dans mon quartier. Je faisais le tour des gens du quartier qui étaient comme mes parents, donc qui avaient des enfants comme moi, qui croyaient avoir la chance d'avoir des parents communistes. Et bien, en fait, en lisant certains ouvrages de sociologie, Pinson-Charlot notamment, j'ai découvert que tout ça n'était qu'un rêve. Et pourquoi ? Je vais essayer de résumer rapidement. La première raison, c'est que pour mettre quelque chose en commun, donc être communiste en commun, et il faut avoir quelque chose, et que quand on est ouvrier ou chômeur, on n'a pas grand-chose, même si on a une petite propriété, c'est rien du tout, parce qu'il faut savoir que quand même pour quelqu'un de riche aujourd'hui, 3000 euros c'est un pourboire, donc je laisse à penser ce que ça peut être 600 euros tous les 2 mois, et donc on n'a rien, et puis on n'a même pas Pôle emploi. Il faut savoir que même Pôle emploi, on ne l'a pas quand on est riche. Et si vous ne me croyez pas, je vous demande de réécouter cette émission et notamment ce qui s'est passé avec Nicolas qui a essayé en vain de faire comprendre à une employée de Pôle emploi que ce service ne devrait pas proposer des emplois au-dessous du SMIC. Et voilà, donc alors là, on imagine le répondeur, on imagine une réponse comme ça, Pôle emploi, à votre service, ça doit être une erreur de notre part, monsieur le communiste. Je vous passe immédiatement, monsieur le directeur d'agence, qui est bien payé pour être à votre service. Et il est plus au courant que moi, et il se fera un plaisir de vous répondre. Mais alors, à qui profite le Pôle emploi si ce n'est pas à toi ? Et à qui profite l'administration, le bien commun, l'entreprise communiste par excellence, l'État, parce qu'il faut quand même rappeler que l'État, c'est au service de tout le monde. Bon, ça suffit comme ça, mademoiselle. Passez-moi votre directeur, j'ai une question à lui poser. Et comme ça, de supérieur en supérieur, te voilà dans le bureau du premier fonctionnaire. Donc je rappelle quand même, le président de la République, c'est le premier fonctionnaire. Mais il n'est pas là, tu n'as qu'à prendre rendez-vous pour une autre fois. Il est au Phuket avec ses amis communistes. Tu n'as qu'à te débrouiller avec le pôle emploi. Si ça ne te suffit pas, si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à prendre ta carte au parti communiste. Alors c'est pour ça que je propose une action. Mettez en commun, chômeur, la seule chose qui vous reste, c'est-à-dire l'information si vous pouvez encore. Et au cas où vous n'auriez pas remarqué Pôle emploi, non, vous n'avez peut-être pas remarqué, ben regardez bien, Pôle emploi ne met jamais en relation les chômeurs avec les autres chômeurs. Pourtant, ils pourraient s'apporter des choses, ils pourraient s'apporter des infos, les chômeurs, avec tout ce qu'ils ont cherché, et tout ce travail qu'ils ont trouvé, sans le dire, et toutes ces magouilles qui leur permettent de s'en sortir. Monsieur de Fouquet, entre riches, on va au restaurant, à la chasse à cour, à la garden party de Madame de Chantilly de la Crème. Mais nous, les chômeurs, pourquoi on irait se rencontrer entre chômeurs, hein, pour se dire quoi? Bien non, ça suffit, moi aussi, je voudrais avoir des réseaux de chômeurs, des garden party, des chasse à cour de chômeurs. Alors, c'est pourquoi je voulais vous proposer justement, pour le plaisir, donc, d'organiser des salons de thé dans les pôles emploi pour militer dans la détente. Et je voulais vous proposer aussi des visites systématiques des administrations françaises à la recherche donc des fonctionnaires qui souhaiteraient aider les chômeurs à avoir des amis dans l'administration, comme monsieur de Fouquet, premier communiste de France à la tête de la fonction publique. Et on a toujours besoin d'un ami, un contact, un numéro de téléphone, une adresse à Pôle emploi, le numéro d'un service. Et il y a chez les fonctionnaires des informateurs en puissance, ça il faut le savoir, des collaborateurs qui sont prêts à résister avec les chômeurs et qui sont prêts à aider les chômeurs à devenir communistes et qui sont prêts pour ça à trahir la 5e République. Et donc il faut aller chercher ces fonctionnaires-là, comme le fait d'ailleurs Nicolas très bien, et savoir que quand même, il ne faut pas désespérer. Comme le dit Nadia, on est quand même 3 millions de chômeurs en puissance, donc on représente une force. Camarades, devenons communistes, voilà.
Bon, et bien voilà, alors musique maestro et vive les communistes.
Jeito, acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras, e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo que quer de mim. Way, it's over. Good luck. I have nothing left to say. It's only words and what I feel won't change.
Tudo que quer me dar.
Everything you want
é
to give me. It's
é
too
pesado,
much. It's
não
heavy.
Tudo
there's
que
no
quer
peace. All you want from me is real.
Expectations. Mesmo se segure, quero que se cure dessa pessoa que o aconselha a um desencontro. Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais.
Now even if you hold yourself, I want you to get cured from this person who deposits you. There is a disconnection, see through this point of view. There are so many special people in the world.
all you want. Everything you want to give me is too much. There's no peace. All you want from me is unreal expectations. Now we're falling, falling, falling into the night.
Voilà pour la suite des luttes et de la résistance mode d'emploi. Alors je sais pas, j'espère qu'on vous a pas trop endormi. Moi je me sens toute mollassonne pour 2011. Alors c'est peut-être mon état psychologique hein, qui ne regarde que moi. Mais nous voilà de toute façon pour la suite des luttes mode d'emploi avec Joseph Boudot.
Comment on peut s'inscrire dans les luttes sociales, parce que c'était beaucoup des travailleurs qui défendaient la question du temps de travail, de la retraite, et nous en tant que chômeurs, je me dis qu'il faut réinventer quelque chose pour participer à ce mouvement-là, parce que sinon on recrée la dichotomie travail-non-travail.
Oui, mais moi je n'ai pas de recette, et c'est une question qu'on traîne depuis des années, qui prend une forme concrète. Lorsqu'il y avait des manifestations organisées par les syndicats concernant l'emploi, logiquement, on aurait dû être associé à la préparation. Mais même sans parler d'être associé à la préparation, on n'était même pas informé des modalités. Alors, il y a eu des bons moments quand même, des moments d'avancée au moment du grand mouvement des chômeurs de 97-98. Donc, il y a eu ce moment de 97-98 où les syndicats ont été relativement bien présents et ont mobilisé aux côtés des chômeurs. Il y a eu des beaux moments également lorsqu'il y a des initiatives après la création de AC vers les années 90, je crois, mais je ne suis pas sûr de ma date, où il y a eu 7 marches convergentes vers Paris qui ont été organisées. C'était dans les années 86, oui, autour des années 90. Et donc, dans ces cas-là, au plan, disons, local, il y a eu des vraies collaborations avec les syndicats. Là où les difficultés ont été plus grandes, c'était au niveau national, et ça reste vrai. Ça reste vrai, les syndicats s'estiment trop encore les représentants exclusifs des intérêts des chômeurs. Alors, comment faire pour que les choses s'atténuent? Je ne sais pas trop. Moi, je crois beaucoup plutôt au dialogue local. Il faut peut-être commencer par l'échelon local, sans renoncer à l'échelon national. Mais moi, j'ai fait souvent un rêve en regardant vers le passé. Il y a eu une période dans l'histoire ouvrière où il y a eu les... Est-ce que je vais trouver le nom? C'est pas les maisons de l'emploi, les bourses du travail, mais il y a très longtemps, c'est au 19e siècle. Et dans ces bourses du travail, il y avait les syndicats, mais en même temps, les syndicats étaient orientés, il n'y avait pas d'association de chômeurs, mais orientés positivement vers l'aide aux chômeurs, il y avait des petites annonces, etc. Et il y a eu, je pense, des occasions historiques de louper, de faire quelque chose de plus commun, encore que... même si le mouvement des chômeurs s'intégrait au syndicat, il y aurait toujours une tension parce que la situation de non-travail n'est pas celle des salariés. Hein. Par exemple, un exemple proche à donner, cette manif du 4 décembre qui se profile, bah, vu l'objectif, logiquement, les grands syndicats devraient être partie prenante. Hein. Alors, est-ce qu'on les invitait? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ils auraient leur place, mais leur place aux côtés d'eux, mais sans vouloir mener les affaires. Parce que les revendications de fond, elles sont pas forcément divergentes. Moi, je pense que les grands syndicats sont d'accord pour la revalorisation des minima sociaux. Voilà, on ne peut pas se résigner à la séparation telle que vous l'évoquez, quoi.
CAC 34, c'est une émission avec des vrais morceaux de chômeurs.
Comment vous expliquez qu'on ait des fois du mal à bouger, malgré le fait que finalement on n'a pas grand-chose à perdre?
Oui, il y a peut-être plusieurs raisons. Il y a l'inertie humaine qui joue, hein, parce que faut se remuer quand même. Vous dites on a du mal à bouger, ben, humainement, pour bouger, pas simplement dans le domaine social des manifestations, mais dans le domaine personnel. Hein, on a tous des moments où on laisse tomber, quoi, et puis pas d'histoire, on veut vivre au jour le jour, puis profiter de la vie. Et peut-être aussi, je sais pas, je m'interroge, c'est vrai que c'est quand même la minorité des chômeurs qui est prête à s'afficher comme chômeur publiquement dans une ville. Et certains de nos adhérents ici nous disent « Ah ben oui, on va aller manifester à Paris, comme ça, ça ne montrera pas ici, quoi. Hein ». Donc il y a la peur, avec l'inertie commune à tous les êtres humains, il y a la peur de se manifester comme chômeur, parce que les chômeurs intériorisent leur situation de chômeur et intériorisent le jugement négatif que l'opinion porte sur les chômeurs. Alors peut-être qu'on fait identifier la mobilisation à la participation à des manifs ou à des actions dures. Peut-être qu'on ne cherche pas assez des actions plus douces d'une certaine manière, mais qui mobiliseraient davantage, quoi. Mais ça, c'est une interrogation que je ne veux pas résoudre tout seul, hein. C'est à débattre, hein. Mais déjà, les travailleurs en activité ont de la peine à faire la grève, c'est souvent minoritaire, ont de la peine à manifester, mais encore plus pour les demandeurs d'emploi, pour les chômeurs. Je ne sais pas comment vous réagissez là-dessus, mais voilà.
Et on se posait la question, comment sortir de cette peur, justement.
Comment sortir de cette peur, bah, je crois qu'il faut y réfléchir ensemble. Il faut essayer d'en discuter en prendre conscience ensemble. Et puis, je pense que faut inciter les gens à tenter l'expérience, parce que en fait, j'ai remarqué que lorsque les gens ont consenti à sortir, à manifester, après, ils sont contents. Ils sont contents, ils ont prouvé cette joie dont vous parliez tout à l'heure, même si il y a une déception souvent, parce que quand ils arrivent pour la première fois à être mobilisés, eh bien, ils se demandent pourquoi les autres n'ont pas fait la même démarche. Voilà. Et donc, pourquoi les manifestants sont aussi peu nombreux. Alors, je pense qu'il y a eu quand même une espèce de tradition sociale dans le mouvement des chômeurs qui est intéressante. C'est les actions minoritaires, mais un peu les actions coup de poing, les actions symboliques. Ça, dans l'histoire du MNCP, ça a quand même été très présent. Il y avait eu le mur de l'indifférence, la marche des caddies vides, etc. Des choses on est dans une société médiatique, il faut trouver les moyens d'attirer les médias. Ça aussi, il faut peut-être pas chercher le nom, mais chercher l'originalité.
Chômactu, les chômeurs et précaires parlent à la population. Je répète, les chômeurs et précaires parlent à la population.
Aujourd'hui, les cacous, vous allez m'expliquer dans l'actualité la jolie arnaque Unédic qui se profile bientôt, c'est ça, non? C'est quand, Nicolas? C'est quoi l'actu donc à venir de 2011?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au printemps 2011, il y a une renégociation de nos droits, c'est-à-dire de ce que les chômeurs vont toucher, combien de temps, quel taux, etc. En fait. Et ça, ça va avoir lieu au printemps. En fait.
On ne sait pas, au printemps, en mars, c'est ça?
Oui, mais ils font, au moins en théorie, ils discutent relativement longtemps.
Ils discutent? Qui c'est qui discute
Alors, il y a les patrons, en fait, c'est-à-dire le MEDEF, la CGPME, et puis ceux qui sont censés représenter les travailleurs. Donc, il y a les cinq syndicats historiques qui ont été désignés en 1945. C'est la CGT, la CFDT, la CFTC, la CGC et Force ouvrière.
Et il y aura les chômeurs?
Ah non.
Parce bah non, tu crois pas qu'on va être invité? Bah non. Bah
parce que là, je vois qu'il y aura Pôle emploi, donc il y aura les chômeurs.
Non, justement, c'est effectivement l'arnaque de ce truc-là, c'est qu'ils vont décider dans leur coin de ce à quoi on a droit.
Et ça se passe quand, ça?
C'est au printemps, pendant 3 mois, ils négocient là-dessus.
Donc, j'ai bien compris. Au printemps, 3 mois, négociation avec les syndicats et le patronat sur le taux des cotisations, sur les modalités du chômage, sans que les premiers concernés, les chômeurs, soient autour de cette table, c'est ça?
Oui, mais ils vont informer, ils vont tout faire pour informer les chômeurs. Je pense qu'ils vont tout... Ils vont profiter, hein, de l'Internet et de la radio, de la télévision.
Oui, je pense qu'on sera informé, mais à la fin, une fois que ce sera décidé. Effectivement, ils vont faire leur truc dans leur coin, et qu'une fois que ce sera décidé, bah, ils vont venir nous voir et nous dire « Ah, vous êtes recalculé, on vous coupe en deux votre allocation. »
Mais ça se passe comme ça depuis longtemps.
Oui, oui, depuis longtemps. Et le truc, c'est que ce soit les syndicats de patrons ou les syndicats de travailleurs, Ils font leur magouille dans leur coin et ils nous laissent à part.
Il y a des informations là actuellement en début janvier, il y a des informations. Il y a des endroits où s'informer.
Sur cette question-là ?
Oui.
Moi, je pense qu'il faut aller voir tous ces syndicalistes, leur demander des informations, un peu comme je l'ai fait, leur montrer qu'ils sont surveillés, qu'on regarde ce qu'ils font, ce qu'ils vont proposer, ce qu'ils vont signer, que ce soit au niveau local, au niveau national. Il faut leur rappeler qu'ils prennent des décisions pour nous, mais qu'on peut ne pas en être content aussi, si jamais ils font n'importe quoi.
Bah, les enjeux, hein, si vous saisissez bien ce dont on est en train de parler, c'est juste nos allocations, quoi. Nos allocations, nos cotisations, et tout ça, c'est aussi la question, je pense, aussi des budgets formation. C'est toutes ces choses-là qui sont, en fait, discutées sans nous, sans les premiers concernés. Donc, du coup, on pourrait peut-être, ça peut peut-être nous donner des idées d'initiatives.
Mais en attendant ce jour, pour vous prouver notre amour, nous voulons tous vous offrir un peu de notre plaisir.
Ah oui,
nous allons changer de rôle, vous irez limer la tôle, et nous nous occuperons de vos ennuis de patron.
Initiative.
Nous serons patron. À vous le plaisir de travailler pour nous.
Alors, ben justement, les initiatives qu'on pourrait prendre autour de ces questions-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Voilà, on sait qu'on a une table de négociation, on sait qu'on a des gens autour de cette table qui parlent de choses qui nous concernent et où on n'est pas invité. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire ? Ça vous inspire, les gars ?
On pourrait peut-être s'inviter, justement. On n'est pas invité, et si on s'invite, ça peut être une bonne chose, en fait.
S'inviter lors des négociations.
Voilà.
C'est ça. Comment on peut faire pour avoir ce genre d'infos, par exemple ?
Ah, mais ces infos, on vous les fournira dans la prochaine émission, et elles seront sur le blog aussi, vous en faites pas, on va s'arranger, on va les avoir.
Tu penses que tu vas passer des coups de fil ?
Oui.
Bon, très bien. Bon, on se renseigne, on va faire un spécial numéro initiative autour de cette question-là. Je pense que le MNCP, de toute façon, a prévu de faire une lettre ouverte et de renseigner les chômeurs sur ces questions et d'écrire une lettre ouverte à l'UNEDIC, si je ne m'abuse. On en parlera plus précisément dans les prochaines. C'était déjà pour vous donner un petit avant-goût de ce qui va se passer sur les négociations au printemps, sur ces questions-là. L'émission, il me semble... Ah non, tu as parlé du blog. Moi, je pense que c'est le bon moment de dire que tu as créé un joli blog sur chômeur auteur compositeur dont tu connais peut-être les coordonnées à donner aux auditeurs.
Oui, c'est http://chômeur34.wordpress.com. Donc WordPress, c'est WordPress.com.
Voilà, CAC 34 touche à sa fin, hein, je pense. Je vous dis bye bye et bonne année. On se retrouve début février pour se partager les petites galettes et les euros. Je vous rappelle les coordonnées de la Maison des Chômeurs. Donc, vous pouvez nous joindre au 04 67 92 74 98. N'hésitez pas parce qu'on se demande même si on a des auditeurs. Non, je plaisante. Alors voilà, la prochaine émission abordera la méritocratie. La quoi ? Oui, le fait qu'on nous dise toujours « t'auras ce que tu mérites » ou « tu mérites ce que t'auras » de l'école à l'entreprise jusqu'au chômage. On analysera comment on nous vend comme normal et légitime notre misère ou notre succès. Au revoir les cacous, au revoir Nico, au revoir Pierre. Merci Tom à la technique et puis bonne année 2011.
Yes, I just went on told her.